France Musique.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de vous réveiller avec nous sur France Musique en ce 15 août, un peu plus frais que ces derniers jours, les sujets de ce 8-9. Qu'est-ce que la harpe ancienne avec la harpiste Clara Isenberg-Jarry? À 8h15, le jeu, un disque de sonate pour piano de Franz Schubert à gagner. À 8h20, la revue de l'actualité musicale de la semaine avec à la clé un hommage au guitariste et luthiste Julian Bream. À 8h25, portez le masque pendant les concerts. Comment le vivez-vous? Quelques témoignages. À 8h30, l'agenda de l'été. À 8h35, fiche métier. Qu'est-ce qu'un acousticien? Avec Damien Dupuy, l'acousticien de la salle Ravel du Touquet Paris-Plage, la salle du Festival des Pianofolies, dont le directeur Yvan Offroy viendra nous parler à 8h40. Et à 8h50, pour la petite histoire, un autre 15 août, le 15 août 1483, la consécration de la chapelle Sixtine. Voilà, vous savez tout, maintenant musique. Un joli souvenir pour commencer ce 8-9. Vous aurez peut-être reconnu la patte de Harpo Marx, un des fameux Marx Brothers à la harpe. Un arrangement de la chanson Stardust, un standard de Augie Carmichael, enregistré en 1949. De la harpe ancienne donc, et c'est justement le premier sujet de ce 8-9, la harpe ancienne. À l'époque de Marie-Antoinette, c'est un des thèmes de l'édition 2020 du festival La Dive Musique en Indre-et-Loire qui démarre aujourd'hui et qui durera jusqu'au 23 août. Clara Isenberg-Jarry est harpiste, elle est l'invitée d'honneur du festival. Elle nous parle du fonctionnement technique de sa propre harpe au tout début du 19e siècle.
On ne sait pas exactement sa date de fabrication, mais c'est estimé entre 1800 et 1820. Et en fait, c'est une harpe à simple mouvement. Donc, c'est le premier système qui a été inventé à la toute fin du XVIIe siècle avec des pédales. Et se viendra ensuite le système à double mouvement, qui est donc le système utilisé maintenant dans ce qu'on appelle les harpes dites modernes.
Et alors, quand vous parlez de pédales, évidemment, ce n'est pas les mêmes que les pédales du piano.
Non, pas du tout. Les pédales pour la harpe servent à faire des chromatismes. Donc elles tendent la corde et permettent de hausser le ton d'un demi-ton. Et donc avec les harpes simple mouvement, on peut utiliser une seule fois la pédale, d'où le terme simple, et monter d'un demi-ton chaque corde, ce qui nous limitait encore à l'instrument en termes de répertoire, de chromatisme, tout ce qui est lié à ce système-là. C'est quand on n'avait pas encore d'autres solutions pour faire les chromatismes, on mettait plusieurs rangées de cordes. Et à partir du moment où on a trouvé ce système à pédales, on s'est dit que c'était plus pratique, quoi. Pour avoir une petite idée, c'est l'harpe qu'utilisait Marie-Antoinette.
De ce soir au 23 août, donc aux alentours de Seuilly, au sud de Chinon, 6 concerts autour de la harpe ancienne et du pianoforte pour tous les amateurs de musique fin 18e sur instrument d'époque. Clara Isambert-Jarry nous offre un petit aperçu de la vie d'une harpiste d'aujourd'hui. Que faire quand on est harpiste pour jouer sur un instrument d'époque? Ça n'est pas si simple.
C'est un instrument d'époque que j'ai trouvé parmi des centaines de brocantes grâce à un ancien prof, c'est-à-dire de musique de chambre. Je l'ai faite restaurer par un facteur exceptionnel en Suisse qui s'appelle Beat Wolf et qui pendant 3 mois l'a complètement restaurée en s'appuyant sur des documents historiques. Donc toute la mécanique est d'origine, le bois est d'origine. Voilà, il a juste fait en sorte que le système soit rehuilé, qu'on puisse remettre des cordes, de voir si l'harpe supportait bien la tension après autant d'années. Mais oui, c'est un instrument historique.
Tous ces festivals de musique ancienne cet été et durant l'année nous donnent à entendre des instruments anciens qui n'ont pas tout à fait le même son que leurs descendants. Une harpe début 18e ne sonne pas comme une harpe d'aujourd'hui. Elle se situe où à l'oreille, la différence?
Alors la première chose, c'est que déjà, ce n'est pas le même diapason. Donc ma harpe, elle est plus basse en termes de diapason, ce qui fait qu'elle est moins tendue. Donc, comme les cordes sont moins tendues, le son va moins projeter. Donc c'est un instrument qui sonne un peu moins en termes de décibels que les harpes modernes. Après, au niveau vraiment de la qualité du timbre, du son, les aigus sont très très cristallins. Et le son dans les médiums et dans les graves est très très boisé et très chaleureux. C'est vraiment un intermédiaire entre la brillance de l'harpe moderne et la projection de l'harpe moderne et le côté très très boisé, chaleureux du timbre de l'harpe vraiment baroque. Et c'est ce que j'adore sur cette harpe historique d'ailleurs.
Rendez-vous sur la page internet de ce 8-9 sur France Musique pour tous les renseignements sur les festivals dont nous vous parlons dans cette émission. Je vous propose d'écouter Clara Isambert-Jarry en attendant de l'entendre en vrai ce soir et demain à Seuilly et à Lernay dans la musique de Franz Schubert, un arrangement pour trio de harpe de son lead Marguerite Aurouet avec, à la place du chant et du piano, les harpistes Marielle Nordmann et Alexandra Luiceanu. Thank you. Marguerite au Rouet, Gretchen Alm Spinrad de Franz Schubert, arrangé pour trio de harpe avec Clara Isenberg-Jarry, Marielle Nordmann et Alexandra Luiceanu. France Musique, 8h12, c'est le jeu. Un disque de sonate pour piano de Franz Schubert par le pianiste Adam Laloum. Si vous voulez le gagner, un message sur l'onglet « Contactez-nous » de la page de ce 8-9 de France Musique avec votre adresse et la réponse à cette question. Vous allez entendre un lead de Schubert, le roi des aulnes, dans une version pour orchestre. Transcrit pour orchestre, oui, mais par qui? C'est ça la question. Arnold Schoenberg, Hector Berlioz ou Maurice Ravel. Ce que je peux vous dire par contre, c'est que c'est chanté par Anne-Sophie von Otter. À vous de jouer. Tot. l'Orchestre de Chambre d'Europe, Anne-Sophie von Otter, le roi des aulnes de Franz Schubert, dirigé par Claudio Abbado. Gagnez un disque de sonate de Schubert par le pianiste Adam Laloum si vous pouvez nous écrire le nom de l'orchestrateur, Arnold Schönberg, Maurice Ravel ou Hector Berlioz.
Musique Matin, le 8-9 de Christophe Dillis. France Musique, c'est l'été.
France Musique, c'est l'été, c'est 8h17, c'est l'heure de la revue de presse de la semaine. Lundi, nous avions commencé la semaine avec une bonne nouvelle, les festivals se portent relativement bien. 5000 places pour le festival Radio France Montpellier, le maintien des festivals interceltiques de Lorient, des nouveaux talents et invités de Villers-sur-Mer ou encore de la Dive Musique. Mais par contre, pas d'opéra à Glyndebourne. Mardi, c'est Berlin qui annonçait que les chorales pouvaient à nouveau chanter dans des salles fermées. Mercredi, c'est tout le ballet du Bolchoï à Moscou qui a remis les pointes dans le placard, mis en quarantaine après avoir décelé des symptômes chez une des danseuses. Jeudi, un papier assez particulier de notre journaliste Florian Royer sur la guerre des prix des pianos dans la grande distribution. 500 euros chez Lidl et encore moins chez Carrefour. Et enfin, hier, nous apprenions le décès à 87 ans d'une immense figure britannique de la corde pincée, Julian Bream, virtuose de la guitare mais aussi du luth, 4 Grammy Awards à son actif entre 1960 et 1985. Il était aussi à l'aise dans le répertoire baroque que le répertoire contemporain, comme nous allons pouvoir l'entendre. Je vous propose de l'écouter dans une danse anglaise du XVIIe siècle, habilement mixée par notre réalisatrice Marie-Laure Ciboulet, au premier mouvement du concerto d'Aranjuez de Joaquim Rodrigo. Bonne écoute. Notre hommage au guitariste Gillian Breen avec le premier concerto, le premier mouvement du Concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo. Il était accompagné par le Monteverdi Orchestra dirigé par John Elliott Gardiner. Merci d'écouter France Musique. Il est 8h25. Le port du masque, on en parle beaucoup dans l'actualité cette semaine. De plus en plus de municipalités l'imposent sur la voie publique. Qu'est-ce que ça veut dire pour le public des concerts? Tous les jours de cet été sur cette antenne, nous vous invitons à relancer l'activité culturelle en vous rendant au concert, mais avec un masque. Pour ceux qui n'ont pas encore sauté le pas, la question se pose, est-ce que le masque gâche l'expérience du concert? Le point de vue d'Alexis Duval, journaliste culture pour le quotidien Le Monde.
Je ne peux pas vraiment dire que le masque m'ait gêné. Ça ne peut pas constituer une barrière entre l'artiste et soi, étant donné que la parole, quand on est spectateur, n'est pas sollicitée. Je me sentais protégé. Étant donné aussi le fait que le concert a duré très peu de temps, le temps de deux sonates, c'est-à-dire trois quarts d'heure pour ces deux sonates, je ne peux pas dire que le masque ait été un problème en fait. Je suis un spectateur très exigeant, je tique au moindre petit son, et d'une certaine manière le masque freine un certain nombre de quintes de tout et empêche des spectateurs de mâchouiller quelque chose ou de sortir un chewing-gum ou une pastille de je ne sais quoi de leur sac. Donc d'une certaine manière, je me suis senti encore plus en sécurité sonore, disons.
Le masque n'est donc pas forcément une gêne pour Alexis Duval qui s'est senti rassuré. Évidemment, cela va sans dire que chacun vit différemment le port du masque en concert, suivant la longueur du concert et surtout suivant les conditions de température. Un mal pour un bien, selon Taïsia Froidure, pianiste, comédienne et surtout mélomane exigeante.
J'ai trouvé que c'était un frein dans le sens où on a un côté un petit peu désagréable dans le fait de porter un masque et d'avoir chaud et sauf que très rapidement on s'y habitue, on s'y fait et en fait ça nous mettrait presque dans une bulle d'une certaine manière. J'ai l'habitude de concerts où on est extrêmement nombreux et là d'un coup on était l'équivalent d'une classe quoi. et même un grand espace avec assez peu de public et des personnes très espacées. Je pense que ça doit être difficile pour le musicien d'avoir affaire à une salle comme ça un peu dispersée. En revanche, pour nous, passionnés d'orgue, on n'a pas senti cet espacement. Enfin, je trouve pas. Je l'ai pas senti ça. J'ai même réussi à discuter derrière le masque avec des voisins au loin du programme, par exemple. Et on a ri tous ensemble aux blagues. C'était très agréable. Mais c'est vrai que ça doit être compliqué de jouer devant une salle clairsemée comme ça.
Le port du masque est donc au programme des festivals maintenus cet été. Que sont-ils, ces festivals maintenus? C'est le moment de l'agenda de l'été. Ne sautez pas non plus du lit pour prendre votre crayon. Tous les renseignements sont sur la page de ce 8-9 sur francemusique.fr. Pour les Savoyards, concert Beethoven le 18 août à la Chartreuse d'Aillon, à Aillon-le-Jeune. Pour les Calvadosiens, festival Nouveaux Talents et Invités de Villers-sur-Mer du 16 au 22 août. Dans le Maine-et-Loire, musique baroque à Savenière du 21 au 30 août. Pour les Vincennois et Parisiens, trois festivals au Parc Floral, festival jazz, classique au vert et pestacle. Tout ça, c'est sur la page de cette émission. Et ce soir, à Rocamadour, dans le Lot, c'est le lancement du festival de musique sacrée de Rocamadour avec l'ensemble Mathéus dirigé par Jean-Christophe Spinozzi dans le Magnificat de Jean-Sébastien Bach. Rien que ça. Et si on les écoutait dans du Vivaldi? C'est bien pour le matin, ça.
Thank you.
La musique de Vivaldi à 8h34. Merci de vous réveiller avec nous sur France Musique. C'était l'ensemble Matthäus dirigé par Jean-Christophe Spinozzi, le premier mouvement du concerto RV-556.
Musique Matin, le 8-9 de Christophe Dillis. France Musique, c'est l'été.
Avant de recevoir l'invité du jour, Yvan Offroy, le directeur des pianos Folies du Touquet Paris-Plage, nous vous proposons une fiche métier sur le métier d'acousticien. Le festival Piano Folies s'installe dans le confort du tout nouveau palais des congrès du Touquet Paris-Plage et qui dit nouvelle salle dit équipe d'ingénieurs et d'architectes. Le travail d'acoustique a été confié à Damien Dupuy de l'agence Point d'Orgue Acoustique. Un acousticien, nous dit-il, c'est quelqu'un qui doit allier sur un point de vue technique l'ingénieur, l'architecte et le musicien au service du cahier des charges du client, Damien Dupuy.
Évidemment, nous, en tant qu'acousticiens, on pense toujours au futur et au public, à ce que va attendre le public, qui n'est pas forcément au courant du programme qui nous est délivré par la maîtrise d'ouvrage, du public, des musiciens également, de tous les acteurs qui vont utiliser cette salle. Voilà, on essaye d'y réfléchir et parfois on essaye de guider la maîtrise d'ouvrage en disant « Attention, voilà, vous allez avoir une belle grande salle, 1200 en place ». Un peu plus. Cette salle va générer des nouveaux besoins auxquels vous ne pensez peut-être pas aujourd'hui, mais nous on sait par expérience, pour avoir fait d'autres salles, qu'il ne faut pas rater telle ou telle chose, parce que le retour en arrière sera difficile. Donc on essaye de guider la maîtrise d'ouvrage dans ses choix, pour qu'elle ne soit pas déçue et qu'elle puisse avoir la meilleure salle possible.
Ce qui est compliqué dans le cadre du Palais des Congrès du Touquet, c'est justement que c'est un Palais des Congrès qui n'accueillera que très ponctuellement des concerts. Comment faire pour concilier salle de congrès sonorisée et petit écrin pour la musique de chambre? Le problème ne se pose pas pour Damien Dupuy, la salle idéale n'existe pas.
Il existe autant de salles que d'œuvres musicales. Chaque œuvre musicale a ses exigences. Je dirais d'abord que la seule personne pouvant répondre à cette question de la meilleure salle, c'est le compositeur lui-même. Puisque quand il va composer son œuvre, il a forcément en tête le cadre dans lequel cette œuvre va pouvoir être interprétée. Quand Chopin écrit ses œuvres pour piano, c'était avant tout pour pouvoir les jouer dans des salons. Bach, quand il écrit des œuvres pour orgue, évidemment, il pense à une église. Aujourd'hui, alors ce qui est compliqué, c'est qu'évidemment, une salle ne va pas être dédiée à une œuvre musicale. Le seul cas, à ma connaissance, que je connaisse, ce serait peut-être éventuellement le Bayreuth Festspiel, qui est une salle qui a été commandée directement par Wagner. Donc on pourrait dire que voilà, c'est la meilleure salle pour pouvoir jouer du Wagner, ce serait cette salle-là.
Damien Dupuy de l'agence Point d'Orgue qui termine en rappelant l'importance vitale, mais quasi invisible, de l'acousticien dans le rendu sonore d'un concert dans sa salle. Être acousticien, c'est bien connaître les instruments.
Quand on est acousticien, évidemment, on va se retrouver avec des instruments sur scène. Il faut comprendre un peu comment fonctionnent ces instruments-là. Ils n'ont pas tous les mêmes étendues spectrales. L'orgue, par exemple, va avoir une étendue spectrale qui est immense, des basses fréquences jusqu'aux très hautes fréquences pour certains jeux, comme par exemple le piccolo ou les choses comme ça. Il faut connaître aussi la directivité des instruments. Il faut savoir qu'un violon, quand il est joué, il va diriger le son vers le haut. Alors évidemment, quand on ne le sait pas, on va peut-être rater la possibilité de mettre un plafond acoustique qui va rediriger le son des violons vers le public et on peut éventuellement rater l'acoustique d'une salle, juste parce qu'on ne connaissait pas la directivité des violons.
Thank you. une version plutôt intéressante de la cathédrale engloutie de Claude Debussy. Normalement, c'est pour piano. Là, c'était par les 12 violoncelles de l'Orchestre Philharmonique de Berlin. France Musique, il est 8h43. Je reçois au téléphone le directeur des pianofolies du Touquet Paris-Plage, Yvan Offroy. Bonjour.
Bonjour Christophe Dillis.
Alors vous avez entendu la fiche métier de l'acousticien Damien Dupuis. Le festival a démarré sa 12e édition dans un nouveau confort acoustique hier soir avec un récital du pianiste Rémi Génier dans le nouveau Palais des Congrès. Ça va, ça sonne bien?
Eh bien écoutez, absolument, puisque Rémi en a donné la preuve hier, si vous voulez. Bon, il était heureux. Alors il a joué au théâtre, puisque nous avons deux salles. Le théâtre a été rénové. Et lui, il a aimé cette atmosphère. On pourra aussi jouer dans ce théâtre de la musique de chambre. Donc il est ravi. Et des artistes qui ont essayé la salle Ravel, et eux aussi, ça sonne bien. Le public n'était pas là, puisque le premier concert de la salle Ravel, c'est ce soir avec Lucas Debargue. Donc on va savoir. Mais déjà, lorsque les artistes répètent, je pense que l'acousticien que vous avez eu tout à l'heure a tout à fait réussi ce tour de force, parce que vous dites, ce sont des salles polyvalentes.
Ouais, bon, bah, si les artistes sont déjà contents, c'est déjà ça. 5 jours de festival jusqu'au 20 août, on ne peut qu'imaginer les choix que vous avez dû faire pour transformer votre festival. Vous avez quand même su faire vivre l'esprit des pianofolies?
Oui, parce qu'on est à la 3e version, et la folie, alors elle ne sera pas dans les rues, puisque notre folie, elle est dans les rues, elle est sur la plage, elle est sur des bandeaux, elle est dans les arbres, les pianos, on les installe partout, dans les lieux emblématiques et charmants du Touquet. Et compte tenu, on bénéficie en quelque sorte de la rénovation et de l'agrandissement du palais, pour, disons, avoir un concert l'après-midi à 17h et un concert le soir à 20h30, dans des conditions sanitaires idéales. Donc il y a deux salles, elles sont nettoyées, elles sont ventilées, et puis donc on est en toute sécurité pour accueillir l'ensemble de nos artistes. On a gardé un peu de folie quand même, puisqu'on va aller dans quelques églises de l'arrondissement de Montreuil, notamment à Hesdin, à Montreuil, et puis on a gardé aussi un peu des choix que nous aimons, c'est d'aller dans les chantiers, le chantier naval à Étaples, où là on a les ouvriers qui rabotent, qui sont en train de parfaire leur dernier bateau, hein. Et puis notre solidarité aussi. Chaque année, nous avions un concert à l'hôpital et on gardera le concert à l'hôpital, raison de plus cette année, quoi, par solidarité au personnel soignant. Donc la folie existe. Voilà. Bon, il n'y a pas de festival sans folie, parce que sinon.
Et alors pianofolie, mais en fait il y aura aussi du clavecin avec Constance Taillard dans le off du festival le 20 août. Vous
voilà,
tenez à faire un off.
Notre-Dame des Dames, donc Constance Taillard, voilà, le 20, donnera son concert à 11h. Et ça c'est pour nous, c'est une nouveauté de travailler le clavecin et puis aussi l'acoustique. Alors l'acoustique des églises, bah écoutez, là on n'a pas de soucis, hein, surtout dans notre région. Nos églises sont parfaites pour accueillir aussi des festivals.
Merci beaucoup Yvan Offroy, bonne chance pour votre festival. Oui, dites-moi.
Voilà, et bienvenue au Pianofolie.
Ben oui, voilà, et ok, Pianofolie qui dure jusqu'au festival.
Oui, si j'ai encore une minute, nous avions des artistes russes aujourd'hui, mais au pied levé, ils ont été remplacés par Guillaume Coppola et Lucas Debargue, qui sont remontés de la roque. Alors ils sont remontés des cigales au goéland du Touquet.
Des cigales au goéland, ça ce sera le titre de votre prochaine édition. Ce sera à 20h dans la salle Ravel du Palais des Congrès. C'est justement Lucas Debargue. Scarlatti, bonne journée.
Merci beaucoup.
Thank you.
Lucas de Bargue, la sonate Kirkpatrick 308 d'Alessandro Domenico Scarlatti en ut majeur. France Musique, il est 8h50, c'est l'heure de la petite histoire. Aujourd'hui, un autre 15 août, le 15 août 1483, la consécration de la chapelle Sixtine. La chapelle Sixtine prend son nom d'après le pape Sixte IV della Rovere, qui a fait restaurer la vieille Cappella Magna entre 1477 et 1480. Le 15 août 1483, Sixte IV consacre la nouvelle chapelle à Notre-Dame de l'Assomption. Et c'est le neveu de Sixte IV, Julius II, qui commandera les fameuses peintures du plafond à Michelangelo Buonarroti, qu'il terminera en 1512. Et en 2015, le chœur de la chapelle Sixtine a reçu pour la première fois l'autorisation du Vatican d'enregistrer un disque. C'est Deutsche Grammophon qui s'en est chargé. Le pape François est d'ailleurs le premier à l'avoir écouté après avoir reçu le disque des mains du président de la Deutsche Grammophon, Mark Wilkinson. Je vous propose d'en écouter quelques secondes, pour le chœur bien évidemment, mais en fait surtout pour la résonance des murs. Écoutez pour la première fois les murs de la chapelle Sixtine. Version originale du Miserere telle qu'elle avait été préservée dans le Codex Sixtine de 1661, bien avant la retranscription à l'oreille de Mozart. La légende raconte que c'est le jeune Mozart de 14 ans qui aurait retranscrit d'oreille en 1670 ce Miserere de Gregorio Allegri, contralto à la chapelle Sixtine jusqu'en 1629. La partition à cette époque n'avait pas le droit d'être copiée pour préserver son mystère. Légende fascinante forcément, même si on sait que des copies de la partition circulaient déjà en Europe avant la venue de Mozart à Rome. Le chœur de la chapelle Sixtine, enregistré pour la première fois dans la chapelle Sixtine en 2015, dans le Miserere d'Allegri, dirigé par Massimo Palombella. Un grand merci à toute l'équipe de l'émission, à la réalisation de l'émission Marie-Laure Ciboulet, à la technique Stéphane Poitvin et Antoine Giraud, et Dorothée Goll était l'attachée d'émission. Bravo aux gagnants du disque Schubert. C'était Berlioz, évidemment, qui était l'orchestrateur de cette version du Roi des Zones. Il est bientôt 9h sur France Musique. J'entends déjà dans l'autre studio piaffer d'impatience Charlotte Landru Chandès, qui a mis au programme de son été classique Coquetterie. Bonjour Charlotte.
Bonjour Christophe. Je vois que vous avez déjà consulté le programme.
Bah oui, Coquetterie en musique, c'est bien ça.
Oui, vous allez voir, il y aura un peu de Poulenc, un peu de Mozart, ce sera sympathique.
Et bah, je vais écouter.
Allez, bon week-end Christophe.
Bon week-end.
À réécouter sur francemusique.fr.